Rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au nouveau rendez-vous du soir, ou presque, puisque le NRV, ça s'écoute dès 18h en avant-première sur franceinter.fr et en podcast, ou alors vous attendez 22h pour nous retrouver à l'antenne jusqu'à minuit, comme tout le monde. Ce soir, confidence pour confidence avec nos deux invités, Lisa Azuelos, avec un nouveau film « Mon bébé », un bébé qui passe le bac quand même, portrait d'une relation fusionnelle mère-fille. 10 ans après LOL, « Mon bébé » change de point de vue avec gros plan sur une mère qui s'affole et une révélation, Thaïs Alessandrin, votre bébé dans la vie. Lisa Azuelos, bonsoir.
Bonsoir.
À vos côtés, une écrivaine qui écoute les yeux bandés, celles et ceux qui viennent déposer leur confidence après avoir répondu à une petite annonce. Ça donne un livre chorale, bouleversant, dérangeant, drôle, avec en sous-texte votre relation à votre père écrivain lui aussi. Marie Nimier, bonsoir.
Bonsoir.
Une séance d'algorithmes ce soir, ça fait du bien, Marion Guilbeault.
Deux algos sinon rien, Laurent Disco pour Lisa Azuelos, Dingo pour Marie Nimier.
Et dans le NRV, la suite, on va parler d'un documentaire très fort sur la pédophilie, Enfance volée, chronique d'un déni, qui doit être présenté aujourd'hui même à l'Assemblée nationale, Benoît Legane.
Oui, et donc pour en parler, la documentariste militante Sylvie Meyer, qui sera accompagnée de plusieurs témoins de ce film édifiant, Franck Desmules, la youtubeuse Yelena, la psychiatre Muriel Salmona et la journaliste Mie Koyama.
Et ben voilà, le NRV, c'est parti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Alors, des relations mère-fille pour vous, Lisa Azuelos, avec Mon bébé, sorti en salle demain. Relations père-fille aussi, en sous-texte de votre nouveau livre, Les Confidences chez Gallimard, Marie Nimier. Vous vous connaissiez l'une et l'autre ?
Non, on se découvre. Enfin, moi, j'ai été voir son film en avant-première, j'ai eu grande chance. C'était la journée de la femme. Et son film a été présenté dans ma petite ville de Normandie. Donc, voilà.
Ça vous a plu ?
Ah, j'ai adoré. On était la moitié à pleurer, la moitié à rire. Moi, j'ai fait partie de ceux qui riaient. Ça révèle beaucoup le rapport qu'on a avec sa mère. C'est-à-dire, si on a un rapport fusionnel, on est très, très ému, je pense, en voyant ce film. Si on a un rapport plus difficile, on a mal au ventre de courbature du ventre tellement on rit de se reconnaître aussi. Donc, c'est un film pour tous.
Vous avez fait le tour de France avec ce film, Lisa Azuelos.
Oui, on a fait un gros tour de France déjà, oui. C'était assez intéressant de voir toutes les réactions.
Toutes les réactions, de tous les côtés d'ailleurs, mère, fille,
oui,
les fils
et surtout,
aussi.
Et surtout les hommes. En fait, j'ai été très étonnée de la réaction des hommes qui avaient les yeux mouillés pareil de rire et de pleurs et qui ont été très touchés. Ça m'a fait du bien.
Alors, on est 10 ans juste après LOL, 3 millions d'entrées quand même, un film générationnel. C'était l'équivalent, on va dire, de la boom des années 2000. C'était votre deuxième film après Comme t'y es belle en 2006, mais en fait non. C'était le troisième, car le premier, c'était en 95, ainsi soit-elle, sous le nom de Lisa Alessandrin. Qu'est-ce qui s'est passé entre 95 et 2006 et pourquoi le film a été interdit à l'époque au moins de 16 ans?
Eh oui, car c'est un film qui disait que c'était intéressant de mélanger l'amour avec le sexe. Et visiblement, bon, c'était beaucoup plus violent pour la société d'accepter ça que la vraie violence, puisque Doberman, à l'époque, je crois, avait pas été interdit au moins de 16 ans, et c'est ultra violent. Et là, juste, c'était des gens qui faisaient l'amour et qui en parlaient, et que je le montrais un peu, mais enfin bon, c'était vraiment... Et j'ai vu à quel point, avec ce film, la sexualité était encore taboue en 95, et je pense qu'elle l'est encore en 2019.
Alors, c'était quoi la vie entre 95 et 2006, la sortie
du
premier
maman
film.
A fait ses enfants, hein.
Bon, il n'y a pas eu que ça, j'imagine. Vous aviez mis le cinéma de côté, véritablement?
Non, pas du tout. En fait, je me suis mariée. Et comme beaucoup de femmes, je me suis dit, mon rôle maintenant, c'est de me donner à mon époux, de me donner à mes enfants, le côté un petit peu mère sacrificielle. J'étais pas non plus ultra épanouie en couple et tout ça. Donc, le temps que je réalise qu'il se passait un truc pas normal, dans ce couple où finalement lui il avait droit à tout et moi rien, ça m'a quand même pris 20 ans. Comme quoi, bon, parfois il faut un peu de temps pour que l'info remonte au cerveau. Et puis voilà quoi. Mais ça m'a donné l'occasion d'apprendre, d'élever mes enfants, de voilà, c'est pas
d'écrire
rien.
D'écrire aussi un petit peu. Vous écriviez pour Classe Mannequin, donc pour Laurent Lafitte.
Puisqu'il
jouait dans Classe Mannequin.
J'écrivais pour Laurent Lafitte, avec Classe Mannequin et Vanessa Demouy et toute la clique. J'ai appris énormément en écrivant ces petits textes très très millimétrés parce que c'est tout sauf de l'à peu près la télé-réalité comme ça, enfin la télé,
la sitcom,
voilà, on appelait ça la sitcom à l'époque. Et puis, oui, il fallait que je gagne quand même ma vie parce que on avait 3 enfants et il fallait quand même... Et puis, j'adorais l'écriture et je pouvais pas... en fait, je crois que ça gênait beaucoup mon mari que je prenne la place de réalisateur alors que lui était réalisateur. Donc, j'ai fait comme beaucoup de femmes, quand elles ont pas forcément la force de se poser un peu la question, j'ai fermé ma tronche et puis j'ai élevé mes enfants et voilà quoi.
Jusqu'à devenir la réalisatrice à succès depuis 2006.
Jusqu'à sortir le dragon de créatif.
Et ça a marché dès le départ. Vous, Marine Imier, l'écriture remonte à quand? Parce que vous aviez été aussi actrice avant, il y a eu plusieurs vies.
Oui, actrice, c'est vraiment un grand mot. Disons que j'ai joué beaucoup de musique dans les rues avec un groupe de musique et puis aussi de théâtre de rue. J'ai fait de la comédie musicale, plutôt du théâtre musical. Et j'ai commencé à écrire exactement à 26 ans.
Ah, c'est drôle.
Pourquoi c'est drôle? Parce que...
Moi, j'ai fait mon enfant à 26 ans. J'ai remarqué qu'il y a des cycles de 26 ans qui sont... Parce qu'après, c'est 52, quoi.
Après, moi, j'ai fait les enfants, mais alors, j'ai continué à écrire parce que c'est vraiment sauf qui peut la vie. C'est-à-dire que je trouve que c'est quand même difficile d'élever des enfants sans avoir quelque chose, un calme à côté. Enfin, pour moi, en tout cas, c'était vraiment formidable de pouvoir écrire et élever les enfants. Et j'ai trouvé que c'était tout à fait complémentaire. Et en plus, de se réveiller tôt pour faire le petit déjeuner, les amener à l'école et tout ça, c'était génial. À 8h30 à table. Enfin, je veux dire, pas à table à manger, à table d'écriture.
À table d'écriture.
Et j'ai trouvé ça très... compatible.
Alors aujourd'hui, donc, un nouveau livre, Les Confidences, avec tout un dispositif, des petites annonces que vous avez déposées dans une ville de province, qui n'est pas nommée.
Oui, enfin, bon, là, c'est une ville pour le roman. En vérité, si on veut dire cette chose, la vérité, c'est un peu bizarre quand on écrit des romans. C'était à Nantes. Et l'idée a germé au Havre. Voilà, donc entre le Havre et Nantes.
Alors, vous aviez écrit quoi dans ces petites annonces?
Un écrivain est dans votre ville de telle date à telle date, venez lui raconter vos petits secrets, vos confidences, ce sera utilisé pour écrire, j'étais mieux écrit que ça, j'ai mieux formulé que ça.
Dans la vraie vie, vous avez fait ça pour de vrai?
Eh ben, j'ai dit ça, la vérité c'est la vraie vie pour de vrai. j'ai recueilli quelques confidences de cette façon-là. Ensuite,
ça c'était le dispositif qui a permis qu'une idée germe et ça fait aujourd'hui un roman qui n'est pas forcément l'expérience que vous avez vécue. Voilà. Parce que c'est vrai que je vous vois mal les yeux bandés dans un appartement avec un philodendron.
Un philodendron? Ah ouais? Non, moi je me vois bien avec le philodendron.
Les yeux bandés?
Les yeux bandés, peut-être un peu
les
moins.
Les yeux bandés pour écouter justement les confidences des gens, pour rester anonyme.
Non, mais il y avait ce côté, l'anonymat était très important pour moi, puisque ces textes, ils allaient être retravaillés, réinventés, découpés, condensés, enfin tout le travail qu'aucun romancier fait. Donc je pense que de voir les gens, ça m'aurait interdit de déformer, entre guillemets, leurs paroles. Même si ces gens savaient pertinemment que ça allait être utilisé, que ça allait être une matière littéraire, dès qu'il y a le regard, je sais pas, il y a comme un échange, l'échange du regard m'aurait obligé.
Personnalise, en fait.
Ouais. Alors que la voix, c'est comme la radio, voilà,
on est simplement dans l'écoute. Il n'y a pas marqué roman pour autant.
Non, parce que ce sont plutôt des nouvelles. C'est pour ça que je suis pas marquée. Ce sont des fictions, mais de courtes fictions.
De courtes fictions, oui. Vous avez quand même récupéré des textes qui vous ont été déposés à l'époque, à Nantes, lors de cette...
Bien sûr, il y a les confidences de Nantes dedans. Ouais,
il y en a aussi. Et d'autres que vous avez...
D'autres que j'ai pu recueillir d'autres façons. Et puis, dans les confidences de Nantes, parfois, une confidence va donner lieu à 3 textes. Et parfois, ils ne seront pas utilisés parce que les gens m'ont trop dit « Ah oui, non, mais ça, il ne faut pas le dire. Puis alors, ça, il ne faut pas le dire. Puis alors, il ne faudrait pas le dire ça. » Mais alors là, bon, ils m'ont fait leur confidence.
Mais vous enregistriez? Ou c'est juste votre mémoire?
L'idée, c'était de travailler de mémoire. C'est-à-dire que justement, de tout de suite être dans un travail d'écoute créative, disons.
Okay. Et de ne pas prendre de notes ni d'enregistrer. Première confidence, en lettres capitales, elle est écrite. Cette gamine, elle a été finie à la pisse.
Ça a été terrible, c'est vrai.
Je me doutais que c'était vrai.
Ouais, ça ne s'invente pas. En fait, on pouvait aussi m'envoyer, les gens qui ne pouvaient pas se déplacer, pouvaient m'envoyer des confidences par le net. Il y a un site, marineimier.com/confidences au pluriel, il est toujours actif, où on peut m'envoyer des petits mots, des petits textes. Et c'est le premier texte que j'ai reçu, c'est ça. Cette gamine, elle a été finie à la pisse. Et moi, j'étais dans ce festival Bifurcation qui m'invitait pour faire quelque chose autour des confidences. Et je me suis dit, mais je ne vais pas y arriver.
Ah ben non, quand on reçoit,
c'est définitif. Je ne vais pas y arriver. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors après, vous imaginez tout ce qu'on peut inventer. Et c'est quoi? C'est quelqu'un qui a entendu ça? C'est quelqu'un qui a dit ça à une gamine? C'est le frère de la gamine qui a... Enfin, après, j'aurais pu écrire mes 10 histoires là-dessus. Je l'ai pas fait, je l'ai laissé comme ça parce que c'était tout d'un coup marquer le danger de cette idée plutôt joyeuse, plutôt amusante d'écouter les gens, d'en faire quelque chose. Là, tout d'un coup, c'était la gravité et j'ai eu très peur.
Et ça donne un peu le ton de ce qui peut se passer justement dans ce nouveau roman sous forme de nouvelles. Alors à toutes les deux, on vous a demandé des sons pour mieux comprendre vos parcours, des sons qui vous ont marqué, des sons qui vous ont construit. Un son de cinéma que j'adore aussi. Lisa Zoedos pour vous. Vous aussi, vous avez rêvé de vous faire laver les cheveux par Robert Redford, c'est ça?
Bah, s'il devait laver quelque chose, j'aurais peut-être pas choisi que les cheveux. Hein.
Alors, un mot
c'est
sur
l'homme
ce film.
Idéal. Hein, ouais.
Out of Africa, alors.
Je l'ai revu, j'ai eu la chance de tomber malade il y a quelques temps.
C'est vrai que c'est une chance, parfois.
Avec la promo, et du coup, j'ai été obligée de rester au lit. Et Out of Africa est repassé. Et je savais que j'avais adoré ce film, mais chaque fois qu'on prend même un an, six mois de plus, on n'est plus les mêmes. Et quand on revoit les films, bah, c'est plus les mêmes films. Et là, j'ai vu tellement de choses que j'avais pas vues.
Par exemple, qu'est-ce que vous avez vu?
En fait, j'avais pas compris à quel point ils avaient tous les deux raison. Elle dit, mais je vois pas pourquoi ta liberté m'empêche d'avoir la liberté de t'aimer chez moi, dans ma maison. Et lui dit, mais pourquoi si tu m'aimes, tu veux absolument que je sois chez toi dans ta maison, puisque moi je suis heureux aussi quand je suis dehors. Et les deux ont raison, en fait. Et les deux s'aiment. Et je sais pas, je trouve ce film, c'est l'amour, il y a quelque chose de l'amour parfait et en même temps de l'amour impossible, et j'adore ça, je crois.
La Reine Imier, c'est un film qui compte aussi.
Oui,
elle est hyper romantique.
Ah là là.
Non mais moi je m'attendais à une super féministe qu'on allait parler de.
Ah bah,
ça n'empêche
aussi.
Pas.
Ah, ça n'empêche
et
pas.
Et alors, je découvre une facette parce que c'est pas, c'est, enfin dans le film on a beaucoup, il y a beaucoup d'amour, mais il n'y a pas cette petite note de petite fille là.
Il n'y a pas cette rencontre. Non mais
de
parce que
de fait, comme...
non mais parce que je vois dernièrement aussi lors de ce même problème de santé, j'ai vu un reportage sur Jack London. Et j'ai vu qu'en fait, il avait rencontré une femme qui était devenue vraiment sa confidente, sa copine, sa muse. Une relation, je me dis, mais voilà, moi, c'est ça que je voudrais vivre avec un homme.
Mais pourquoi avec un homme? Ça peut être avec une femme.
Oui, mais... Moi, j'adore l'énergie qui se mélange entre l'homme et la femme. Je trouve ça magnifique. Que ce soit sexuellement, amicalement, je trouve qu'il y a quelque chose de profondément... complémentaire qui me fait un bien fou.
Ouais,
j'adore
mais vous
ça.
Vous dites que vous trouvez ça dans les films, dans je sais plus.
Non, je trouve ça aussi dans l'amitié. Je trouve ça aussi d'accord. Dans l'amour voilà. Sexuel. Je trouve ça. Mais en fait, j'ai jamais rencontré un homme avec qui je pouvais partager
et voilà.
Tout ça.
Peut-être il faut arrêter de rêver au prince charmant.
Ah mais j'ai arrêté de rêver au prince charmant parce que c'est vrai que on le sait maintenant hein, que ça n'existe pas forcément.
On dirait
pas,
hein.
Et en même temps, non mais. Je sais pas, je trouve que c'est pas mal de partager. Je partageais beaucoup ma vie avec mes enfants. Ouais. Et là, j'aimerais bien être un peu peinard et partager ma vie avec un compagnon, quoi, tout simplement.
Ouais, voilà, c'est la petite annonce vient de passer.
Voilà. Confidence pour confidence ce soir. Un son historique pour vous, Marine Imier.
Au quatrième top, il sera exactement 19h59.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Mais c'est l'horloge parlante. Hein.
Version masculine.
J'ai mis version masculine parce que assez récemment on a eu une horloge parlante avec deux voix, une
tout
voix féminine et alors voilà pourquoi j'ai demandé ce son parce que mon grand-père hein, que je n'ai pas connu, il est mort très jeune aussi, est l'un des inventeurs de l'horloge parlante et j'en suis quand même assez fière.
Ah, voilà,
je suis un peu fierotte là donc je frime, hein, je me dis je passe sur France Inter, je vais dire comme mon grand-père a inventé.
J'avais jamais pensé d'ailleurs qu'il y avait un inventeur de l'horloge parlante.
Oui,
il faut bien que quelqu'un l'invente quand même, c'est
un horloger,
c'est votre grand-père.
En tout cas mise en place, inventé, c'est une parce que plusieurs personnes revendiquent oui, voilà.
Et c'est drôle.
Et donc pour moi, cette parole, c'est peut-être la parole du grand-père, c'est la parole du temps, on parlait de vérité, c'est la parole de la vérité, c'est-à-dire c'est l'heure juste. C'est quelque quelque chose d'éminemment rassurant pour moi, c'est-à-dire on peut prendre le téléphone, on pouvait prendre le téléphone et avoir cette voix. Bon, moi ayant été élevée par une femme, par des femmes et puis sans présence masculine, c'est ma présence masculine.
Ah, c'est pour ça.
De mon enfance.
C'est pour ça, je vais voir. C'est drôle que vous parliez de ça parce qu'en fait ma fille donc qui joue dans le film, oui. Elle est née à 23h59 et à l'époque, il n'y avait pas d'iPhone, il n'y avait pas tout ça. Et pour savoir à quelle heure elle était née, parce qu'on hésitait entre un jour ou l'autre, hein, c'était entre le 24 et le 25 septembre, j'ai appelé l'horloge parlante. Voilà. Et en fait, il était 23h59.
Et d'une certaine façon, mon grand-père est le parrain de votre fille.
Tout à fait. Bon, on est de la même famille, de toute façon,
mais
je le sens.
Je le savais.
On vous retrouve toutes les deux dans quelques instants. Lisa Azuelos et Marie Nimier. Mais tout de suite, place à celle qui va briller dans les plus beaux festivals de l'été, comme à Wheel of Green à Vincennes le 1er juin ou aux Eurockéennes de Belfort le 7 juillet. Chris, dans le NRV.
Jade a triché, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Bon, bah c'est très grave, tu vois, c'est très mal, Jade. C'est honteux, même.
Je suis désolée, maman.
Mais non, mais écoute, la dame a raison, tu passeras pas ton bac, et puis c'est tout. T'iras pas à la fac, t'arrêteras les conneries, et puis tu viens faire la plonge avec moi au resto, tu vas travailler sur le tas comme tout le monde, et puis c'est tout. Moi, je me saigne, là, pour que t'ailles faire tes études au Canada. Mais franchement, virez-la, hein, ça m'arrange, hein, ça m'arrange.
Laurent Goumard.
Tu ne mérites pas que je m'occupe de toi, voilà.
Bon, écoutez, calmez-vous.
Non, je me calmerai pas, écoutez.
Le nouveau rendez-vous sur France Inter.
Elle s'affole, là, Sandrine Kiberlin qui joue Héloïse, la mère de Jade qui va bientôt passer son bac, une mère et sa fille donc au centre de ce nouveau film Mon bébé, 10 ans après le succès de LOL. Lisa Azuelo, cette scène-là, vous l'avez vécue ? La fausse... La mère qui fait semblant de prendre ombrage de ce qu'a fait sa fille.
Bon alors, ça fait partie du truc qui est un petit peu différent que dans la vraie vie. Dans la vraie vie, j'ai vraiment aidé ma fille à tricher. Elle s'est vraiment fait gauler. Je me suis donc vraiment fait convoquer en tant que tricheuse. Donc déjà, tu rentres les pieds très en dedans. Hein. T'as l'air trop bête, quoi. Et là, elle m'a passé un savon. Et j'ai été beaucoup moins brillante. En fait, c'est ma manière de me venger de cette scène, en fait. C'est tout ce que j'aurais voulu pouvoir dire. Et moi, je faisais que à moitié pleurer, dire « Je vous en supplie, la vie n'irait pas, c'est de ma faute. » Voilà, j'ai été beaucoup moins brillante que Sandrine. Mais là, c'est ce que j'aurais aimé dire, quoi.
Mon bébé, c'est l'histoire donc d'Héloïse, divorcée, mère de 3 enfants. Elle tient un restaurant, son fils travaille pour elle. L'autre vit sa vie. Et le dernier, le bébé, passe son bac et va partir peut-être au Canada. En tout cas, elle a été acceptée à l'université de McGill. Bref, Héloïse s'affole. Elle va devoir vivre seule. Alors, elle se souvient des temps passés et tente de construire l'avenir. Elle filme sa fille tout et partout, bande-annonce.
Arrête de me filmer, c'est quoi ce nouveau délire ?
Je me fais des souvenirs.
Pourquoi ?
Pour quand tu seras partie. Tu sais qu'elle est acceptée, ta sœur.
Où ?
Bah, au Canada.
Ah cool, c'est bien.
Non mais elle va te manquer, hein, crois pas. Hein.
Maman, arrête de filmer.
Et moi, pourquoi tu me filmes pas ?
Oh la fatigue. Pfff. C'est juste que quand t'es partie, il m'en restait 2 à la maison. Là, elle part, je suis toute seule. C'est pas tellement la même sensation, quoi.
Non, t'en avais rien à foutre de moi, en fait.
Oh, tu m'emmerdes ! Non mais l'ingratitude !
Salut !
Nous, on est là pour tout, pour tout, pour tout ! Vous voulez de l'aide pour la fumette ou comment ça se passe ? Non, tu sors pas, chérie. Bonne nuit.
T'es irresponsable ! Je suis affolée, là !
Je vais m'inscrire à Tinder.
Et t'es totalement folle.
C'est quoi ton prénom ?
Je m'appelle Héloïse.
Il m'attend là-bas.
Te retourne pas !
T'es beaucoup trop belle pour ça.
Je suis trop belle, en attendant, j'ai pas de mec.
Ça, c'est parce que tu nous aimes trop, tu vois. Ça prend de la place. Il va dormir ici.
Ah bon, d'accord. Bah, bonne nuit, les enfants. Enfin, les grands, hein.
Relation mère-fille, fusion, irritation, stress, projection, tout y est dans ce film Mon bébé. C'est comme ça que vous appelez vraiment votre fille ?
Oui.
Et les autres ?
Bébé. Et il y en a une, c'est Mon bébé, l'autre c'est Bébé. Et mon fils, je le dis pas, si je le dis, il va me tuer. Mais c'est de cet ordre-là aussi. Hein, c'est pas...
Et comment on vous appelait quand vous étiez enfant ? Comment Marie Laforêt, votre mère, vous appelait ?
Alors c'est un petit peu le problème.
Elle ne vous
appelait
pas.
C'est qu'on m'appelait pas. Voilà, voilà. Bon, vous avez un petit peu de musique, là, quelque chose.
Quelle adolescente vous étiez ? Parce que quand on filme, bien sûr, une adolescente, on pense à la fille qu'on était à cette époque-là. Vous étiez quel type d'adolescente, Lisa Azuelos ?
En fait, moi, je suis partie vivre chez mon père à l'âge de 12 ans. Donc, j'ai vécu mon adolescence chez mon père. Donc, les premières règles, tous ces trucs-là, j'avais personne à qui le dire, parce que j'avais pas de femme autour de moi. Et j'avais comme modèle mon père, qui est un mec super, mais qui adorait aller en boîte de nuit. Donc la seule chose qu'il me faisait, il m'emmenait pas à Disneyland, qui d'ailleurs n'existait pas, il m'emmenait en boîte de nuit. Donc j'ai tout de suite été beaucoup en boîte pour partager des moments, etc. Il me faisait rentrer, j'avais 14-15 ans. Et j'ai adoré le monde de la nuit tout de suite. Et sinon, j'adorais l'école. C'est le seul endroit où on était très gentil avec moi, tout le temps. Parce que je pense que j'étais un peu bonne à l'école, j'avais des bonnes notes. Et j'aimais tellement les bonnes notes et qu'on me dise que j'étais quelqu'un de bien et tout. Donc j'étais pas du tout rebelle. Je trouvais ça super, quoi, de cet endroit où on apprenait des trucs, on me disait que j'étais une fille super. Après, je rentrais, c'était pas la même, mais... à l'école, j'étais... Donc j'ai pas su que je pouvais être rebelle. J'ai su que je pouvais être rebelle qu'après mon divorce, en fait. Mais c'est bien aussi, hein, c'est un super âge.
Marine Limier, vous, quelle adolescente étiez-vous ?
Moi, je suis partie avec le cirque à 15 ans. J'ai rencontré une troupe de théâtre de rue. Je voulais tout quitter, mais franchement, j'étais persuadée quoi, que j'allais faire ma vie comme ça, avec une petite valise, faire le tour du monde, jouer dans la rue. C'était ça mon truc. Seulement, je suis revenue 2 semaines plus tard avec une bronchopneumonie et puis je suis revenue chez maman. Et maman m'a dit, voilà, il faut que tu passes ton bac et après tu feras ce que tu veux. Donc j'ai continué à faire du théâtre de rue, mais j'ai quand même passé mon bac et je suis repartie à faire du théâtre...
Mon bébé, une dimension autobiographique évidente dans le film, on l'aura compris, mais beaucoup de mères et de filles vont s'y reconnaître. Dimension autobiographique, d'autant que c'est votre fille que vous filmez qui joue Jade. C'était dès le début le projet ?
Oui, ben en fait, depuis qu'elle est petite, ma fille veut jouer dans mes films. Donc c'est la petite dans LOL, qui a 7 ans, là, qui est dans le bain avec Sophie Marceau. Dans le film Une rencontre, ben, c'est l'ado. Et puis là, elle m'a dit, mais maman, c'est hors de question que tu files le rôle à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, c'est pas comme si j'ai eu le choix, en fait. Et puis surtout, c'était pour l'interpréter, elle. Et puis, elle a un don. C'est une très, très bonne actrice.
D'ailleurs, c'est vraiment la révélation du film.
Mais oui, ouais, mais c'est super. De toute façon, personne ne l'avait jamais vraiment vu avant. Donc, puis il y a plein de gens qui voient le film, qui ne savent pas, comme on n'a pas le même nom, que c'est ma fille. Et du coup, qui m'en disent plein de bien. Puis après, je dis, mais vous savez, c'est ma fille. Ils me disent, ah bon, mais je ne savais pas.
C'est mon bébé.
Mais c'est mon bébé. En plus, je suis super fière. Puis je me dis, bon, bah, si ça peut lui donner un métier, en plus, c'est pas plus mal. Puis surtout, je l'ai fait revenir du Canada pour tourner le film et la promo. Comme ça, elle me manque moins.
Juste une question sur une scène qui m'a troublée, votre fille nue, oui, qui rejoue Bardot dans Le Mépris.
J'adore, ça, tout le monde me parle de ça,
bien sûr.
J'adore.
Une mère qui filme sa fille nue, c'est quelque chose d'assez troublant en effet dans le cinéma.
C'est parce qu'on n'a pas de problème avec le corps et la nudité en fait. Ma fille, je lui ai dit, écoute, tu la tournes comme tu veux, en pyjama, en slip, nue, comme tu veux. Elle me dit, maman, Bardot, dans le film, elle était toute nue, donc moi je veux faire
Le Mépris de Godard.
Le film Le Mépris. Moi je veux faire un clin d'œil à ce film qui pour moi est un chef-d'œuvre, donc j'ai envie de le faire toute nue. Et puis en plus, c'est le moment de ma vie où je suis le plus belle, donc autant que ça se voit.
Comme tu es belle.
Comme tu es belle, ma fille, je lui ai dit. Et puis elle m'a dit, j'en ai marre qu'on peut pas montrer une fille à poil sans pour autant évoquer quelque chose de sexuel. Là, c'est pas sexuel, c'est juste. Après l'amour, on est tout nu, et pourquoi pas, quoi.
Quand même, il y a un dialogue qui est génial après. Parce que, elle lui dit, bon, qu'est-ce que tu dis? Alors, le type, son copain, lui, bafouille quelque chose.
Oui, parce qu'elle lui demande comment tu lui trouves mes fesses.
Comment tu lui trouves mes fesses?
Lui, c'est pas quoi répondre. Parce que manifestement, il a pas du tout le même
référence. Il a pas du tout vu Godard. Et puis, alors après, lui dit, tu connais Godard? Et il répond, vite fait, oui. Vite fait, oui, j'ai adoré.
Et là, il y a quelque chose qui est un peu troublant, c'est-à-dire qu'elle va lui reprocher de n'avoir pas les mêmes références. Godard, c'est elle ou c'est vous ?
Ah non, c'est pas moi. Moi, je connaissais quasiment pas Godard. Mais en fait, j'ai voulu lui montrer, parce qu'en fait, je vais vraiment tout vous dire, elle a été conçue à Saint-Tropez, ma fille. Et donc, je lui ai dit, mais t'as jamais vu Et Dieu créa la femme ? Tu vas voir Saint-Tropez comme c'était beau à l'époque. Donc à l'époque, je lui montre le film Et Dieu créa la femme pour lui montrer un peu Bardot qu'elle connaissait pas et Saint-Tropez comment c'était avant le bling. Et elle est tombée en pamoison devant ce film. Elle est tombée amoureuse de Bardot et du coup de Bardot elle est allée à Godard, de Godard à la Nouvelle Vague et je me suis tapée pendant 3 mois que des films en noir et blanc mais imbitables souvent parce qu'elle allait chercher des trucs vraiment.
Il est tout pas mal La Vérité de Clouseau, tout ça c'est
alors,
super.
Alors La Vérité c'est moi qui lui ai montré parce que c'est un de mes films préférés sur Terre. Et puis j'adore Bardot moi aussi. Mais elle m'a fait redécouvrir les années 60 et en fait, elle est dans une énergie années 60, ma fille, bizarrement. Elle est un peu, elle trouve que ça va trop vite, que les films vont trop vite aujourd'hui. Elle adore le cinéma de la Nouvelle Vague, c'est très étrange.
Est-ce que vous, il y avait des actrices qui ont été des modèles pour vous,
où
vous
êtes... Oui, clairement.
C'était qui, Lisa Zolos?
D'abord, Meryl Streep, parce qu'il n'y a pas une fausse note. Moi, j'ai démarré avec Holocaust de Meryl Streep et je ne l'ai jamais lâchée depuis. Tout ce qu'elle a fait est fantastique. Et puis, il y avait Viviani dans Autant d'emporte le vent. Il y avait, je sais pas, je peux pas vous dire. C'est ma vie. J'ai adoré Deneuve, en France Deneuve, Isabelle Huppert, Sandrine que j'ai.
Sandrine Kiberlin.
Que j'adore, Sandrine Kiberlin, qui est incroyable. Et aux États-Unis, même une Julia Roberts. Enfin, je veux dire. Je suis fascinée par ce qu'on peut faire avec des histoires et des acteurs et des actrices.
Marine Limier, vous aviez des figures comme ça de référence quand vous avez commencé le cirque à l'âge de 15 ans. C'était Annie Fratellini, votre modèle.
Non, c'était, je sais pas qui c'était, mais enfin aujourd'hui je pourrais ajouter Delphine Seyrig et Jeanne Moreau. Pour moi, ce serait plutôt ça, ces figures-là de femmes très
comme
engagées. Voilà, je suis plutôt de la génération de votre fille pour les goûts cinématographiques.
Alors c'est véritablement un film de famille puisqu'on retrouve votre fille, mais aussi le fils d'eux, c'est-à-dire Victor Belmondo, qui est le petit-fils de Jean-Paul Belmondo. Est-ce qu'il fallait créer un clin d'œil parce qu'on sait que votre mère, Marie Laforêt, a joué avec Jean-Paul Belmondo. C'était une histoire de filiation aussi de cinéma pour vous, Lisa Zoelos ?
Ça s'est vraiment fait par hasard parce que j'ai fait un casting, j'ai vu 200 mômes à peu près. Mais c'était de loin celui qui ressemblait le plus à un être de ma famille. Et comme c'est vrai que leurs deux grands-parents ont tourné 3 films ensemble quand même, ils se sont rencontrés, ils étaient tout de suite frères et sœurs. Mais ça, parce que Thaïs a fait les castings pour un peu choisir sa famille, pour voir qui avait l'air d'être le plus une vraie famille. Et je pense que ça a joué. Peut-être que la famille Belmondo et puis la famille de ma mère, en fait, on se rend compte depuis des générations et des générations qu'on se réincarne et puis qu'on a des histoires. Je sais pas. Je ne sais plus.
Qu'est-ce que vous devez, vous, à votre mère ? Qu'est-ce que vous devez, vous, à votre mère?
Oh, je lui dois énormément de choses. D'abord, je lui dois la vie, ce qui est énorme. Et ensuite, je lui dois... Parce qu'elle n'a pas été là, mais parfois, c'est un grand cadeau, en fait, aussi, que les parents vous laissent devenir qui vous êtes sans imposer qui ils sont, eux. Et en fait, elle a laissé ce vide, qui est un vide affectif clair, un manque d'amour probable, mais aussi une manière de me construire qui était vraiment moi. Aujourd'hui, je peux vraiment dire « je suis moi ». Il y a beaucoup de gens qui sont quand même ce rapport à la mère qui peut être un peu... probablement que mon amour doit pas faire que du bien tout le temps à mes filles même ou à mes fils. Enfin, je veux dire, c'est là au moins j'ai été libre d'être moi et c'est un énorme cadeau. Puis elle m'a donné beaucoup d'humour. C'est une femme extrêmement drôle. Et elle m'a donné elle est rebelle. Ma mère est une rebelle. Elle est belle et rebelle et j'ai toujours essayé d'être pareille à ce niveau-là, je crois.
Et vous, Marie Limier, qu'est-ce que vous devez à votre mère dans votre écriture, par exemple?
Je lui dois l'humour aussi, sa façon de jouer avec les mots, de raconter. C'est quelqu'un qui raconte beaucoup d'histoires, qui parle beaucoup. Donc sa voix, j'ai toujours entendu sa voix portant des histoires. Donc je crois que c'est...
Ce n'est pas sans lien avec ce que vous faites, en tout cas aujourd'hui, avec ce nouveau roman. Hein.
Oui, en plus, avec elle, c'est vrai qu'on ne sait jamais ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Quoi. Elle a toujours eu une façon...
Bienvenue au club.
Et je le dis avec beaucoup d'affection, mais c'est vrai qu'elle a une façon de réinventer le monde qui, finalement, moi je fais la même chose, mais je le fais de façon un peu plus cadrée, disons.
Alors, il y a juste autre chose sur laquelle j'aimerais qu'on ait quelques instants avec vous, Lisa Zoidos, parce qu'il y a donc, il y a ce film Mon bébé, mais il y a aussi un autre film qui est un projet qui s'appelle Your Love, qui est un documentaire, mais aussi une plateforme, vous allez nous expliquer tout ça très rapidement, dans laquelle vous avez filmé les rapports entre adolescents. Qu'est-ce qui vous a le plus, alors ça a été dans les lycées, dans les collèges, en France, qu'est-ce qui vous a le plus surprise? Qu'est-ce que vous vouliez trouver, en fait, au départ?
Non, mais je suis alertée de manière très consciente sur ce qui se passe dans les collèges et les lycées, parce que c'est vrai que je fréquente beaucoup d'ados. Et en fait, j'ai voulu, au travers de mon association Ensemble contre la gynophobie et tout ça, j'ai voulu parler justement de ce problème de gynophobie dans les collèges et les lycées. Je me dis, on peut pas avoir les mouvements MeToo, se dire, ouais, super, ça va changer, et laisser aux collèges et aux lycées et dans les écoles les rapports garçons-filles tels qu'ils se construisent aujourd'hui, qui sont très très loin du vivre ensemble et du vivre en amitié garçons-filles, avec le porno comme tuto sexuel. Je veux dire, on est dans une situation qui est catastrophique au niveau de la formation du rapport homme-femme dès l'école. Et donc moi j'ai voulu aller voir tous les gens qui faisaient des initiatives positives dans les collèges et les lycées pour ramener justement du dialogue, du vivre ensemble entre les garçons et les filles. Et il y a des mouvements extraordinaires dans les écoles. Et j'ai juste voulu témoigner que quand on veut, on peut. Si on veut que ça change dans un collège ou un lycée, ça change. Quand on veut que dans un hôpital il n'y ait pas d'épisiotomie, ça change. Quand on veut que ça change, ça change. Voilà, donc moi j'ai créé un objet gratuit pour toutes les écoles.
Yolove.tv.
Yolove.tv, ils font une demande et on leur envoie le lien du film. Et ils passent ce film, on a commencé dans tous les collèges et les lycées. Il y a des réactions incroyables, mais incroyables. La parole se libère vraiment, les jeunes se rendent compte de plein de choses. Voilà, je conscientise aussi pour eux parce qu'ils n'ont pas le temps, ils ont trop de trucs à intégrer. Quoi.
Mon bébé, sorti en salle demain, vous restez avec nous.
Bah oui, c'est pas tant que vous me gardez, je reste.
Je vous garde, Lisa Zoidos. Tout de suite, on va passer à l'algorithme musical. Il vous concerne toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Ça va, Marion?
Vous avez rendez-vous?
Rendez-vous.
On peut avoir de la musique?
Bien sûr.
Je vois que vous êtes recommandé par Stevie Wonder.
J'adore Tom Waits, Phil Collins, Sketchareb.
Le nouveau rendez-vous.
Vous aimez Mozart?
Oui. C'est lequel?
Le dernier.
Sur France Inter.
On explique le dispositif aussi.
Allez, on explique le dispositif. Je pars
Marion Guilbeault.
De votre ADN musical, Lisa Zoidos, Marie Limier. Je fouille dedans et je vous fais un algorithme, une recommandation, quelque chose de nouveau à découvrir, à écouter.
Génial.
Voilà, je suis en fait Deezer et Spotify à l'intérieur, de moi. Alors, le vôtre, Lisa Zoidos, c'est un algo où musique et cinéma sont intimement liés, et cela dès votre naissance dans les 60s. À l'époque, une révolution pop se fomente en Angleterre avant d'envahir le reste du monde. Un raz-de-marée musical, culturel, qui a laissé des traces en toute une génération, comme celle de votre mère.
Manchester et Liverpool, je m'en allais dans tous les coins perdus, en cherchant ce bel amour que près de toi j'avais connu. Je t'ai
Marie Laforêt, Manchester et Liverpool. En 66, elle avait aussi adapté Paint in Black des Stones en Marie Douceur, Marie Colère. Vous aviez un an, c'est un peu tôt pour avoir des souvenirs musicaux, mais quel rapport vous entretenez avec les chansons de votre mère ?
C'est compliqué parce que forcément, c'est aussi une voix de l'absence. Donc c'est compliqué, mais je trouve que c'est une chanteuse d'exception, hyper moderne. Je pense qu'elle serait arrivée aujourd'hui, elle aurait pu mieux gérer sa carrière de manière plus... en étant la productrice, c'est quelqu'un qui a toujours eu du mal à avoir un patron comme moi. Et à l'époque, les maisons de disques n'étaient pas cool avec les interprètes. Et elle a beaucoup souffert de ça. Mais je trouve que c'est une chanteuse d'exception, avec une voix d'exception. Et surtout qui a été d'une modernité incroyable et qui a fait beaucoup de musique du monde. La preuve, elle a adapté les Stones, les Beatles. Bon, à l'époque, on prenait beaucoup des chansons des uns des autres. Mais elle a chanté dans 8 ou 10 langues. Enfin, je veux dire, elle a été en Amérique du Sud, elle a chanté dans toutes les langues du monde et c'est hyper varié. On connaît que les tubes, mais le truc est dingue.
Un répertoire très varié. Alors, dans votre ADN musical, on trouve aussi un premier concert avec Simon et Garfunkel à l'Hippodrome d'Auteuil, Dalida, bien sûr. Un vice caché pour une chanson de Jean-Luc Lahaye.
Oui, un peu.
Laquelle?
Femme.
Tu parles.
Beaucoup de funk. Voilà. Surtout quand on sait. C'est pour ça que c'est un vice caché.
Voilà, beaucoup de funk, beaucoup de disco. Oui. Alors voilà, forte de toutes ces informations, je vous propose la musique de Vendredi sur mer. Vendredi sur mer, c'est une jeune Suissesse, elle s'appelle Charline Mignot. Elle a commencé en tant que photographe avant de proposer des musiques pour illustrer des défilés, des shootings de mode. C'est une artiste qui réfléchit aux images comme à la musique, et sa musique à elle est très indolente et en même temps dansante, avec un chant parlé et des titres très évocateurs, très cinématographiques comme celui-ci.
Je suis rentrée tard, elle m'a suivie, je crois plus au hasard, depuis cette nuit, je connais pas son nom, ni même son adresse, je me souviens au fond que de sa tendresse. Un dernier verre, et puis une cigarette d'une femme à la peau bleue.
Alors vous dansez
là-dessus. Vous êtes un bon algorithme.
C'est vrai.
Je vais vous emmener chez moi. D'accord. Vous allez me faire la programmation musicale.
Vous faire votre prochaine playlist. Pour les fêtes, pour les anniversaires. C'est ça. Alors voilà, c'est Vendredi sur mer, la femme à la peau
bleue. Magnifique.
C'est extrait de son premier album qui sortira la semaine prochaine. Elle sera en concert tout près de chez nous au festival EuropaVox à Clermont-Ferrand le 29 juin, au Francofolie de La Rochelle le 11 juillet. C'est votre tour, Marie Nimier.
Oui.
Deux salles, deux ambiances, hein, je vous préviens. Votre algo musical, vous, il fait le grand écart entre un certain classicisme quand vous écrivez des chansons avec ou pour des artistes comme Johnny Hallyday, Juliette Gréco, Lambert Wilson, Enzo, Art Mango, Clarica.
Morane.
Oui, il y a une liste impressionnante.
On va se retrouver là-dessus.
Et un goût pour le décalage, l'étrange, l'inclassable, comme quand on vous demande qui est votre idole absolue en musique. Voilà ce que vous nous avez répondu.
Il parle, elle parlotte. Alors, il tousse, qu'elle, elle toussote. Et alors, quand il siffle, n'est-ce pas, il siffle comme un merle. Il siffle comme un merle. Et puis, elle sifflote. Et alors, on entend le merle qui siffle dans les arbres. Elle sifflote.
Qu'est-ce qu'on écoute, Marie?
C'est une jeune femme de 84 ans, qui est morte maintenant, mais qui est toujours vivante, très vivante pour moi, et qui s'appelle Louise Bourgeois, qui est une artiste
contemporaine, plasticienne, sculptrice, féministe.
Et elle a enregistré cette chanson. La musique est de Ramon Chomata. J'adore cette flûte derrière et cette voix extraordinaire. Et en plus, bon voilà, on parlait des femmes aujourd'hui particulièrement. J'ai pensé que c'était la femme. Alors, là, hyper drôle quand on écoute toutes les paroles. Et alors maintenant, on le trouve sur Internet très facilement. Alors, vous pouvez aller l'écouter en entier, vraiment.
Il tousse, elle toussote.
Et je trouve comme la question, c'était mon idole en musique. Et au moins, voilà, comme ça, je peux faire le tour puisqu'elle a enregistré qu'une seule chanson.
Alors, dans votre ADN musical, on trouve aussi de l'accordéon diatonique, du bandoneon, le minimalisme d'Arvo Pärt, des jeunes artistes plus confidentiels, plus pointus, comme Kuzi Larsen ou Nina et les fils d'eux. Coucou Nina,
elle est là, c'est notre auditrice, spectatrice.
Des chansons en yiddish, alors pour compléter cette playlist éclectique, je vous propose la bande originale d'un spectacle, celle de Grande, le cabaret, barré et mythique, d'un couple, Vimala Ponce et Tsiri Aka, à Rivel. Ça s'est joué au 104 à Paris. Cytélescope, techno, dadaïsme, détresse, ritournelle, fantaisie, humanité, claquette, fanfare, amour. Vous devriez y retrouver votre compte.
Si je meurs, caille ma mère, ce coup, j'ai près de moi. Je t'ai promis le repos, je te le donne, je me le dois.
J'ai vu le pouce qui s'est levé.
Ah oui, parce que je me disais, bon, ça va être dur, comment je vais en parler, parce que ça manquait un peu de guitare électrique, ou d'un truc un peu qui se déchaîne un peu, et non, juste à ce moment-là...
J'ai fouillé dans votre ADN musical, j'ai vu qu'il fallait un peu de guitare électrique, un peu de trucs qui se déchaînent, comme
vous
dites.
C'est vrai que c'est des trucs, j'aime bien ce mélange entre des textes très, peut-être même très doux, très parlés, écrit. Et très écrits, et pas forcément chanter avec une grande amplitude, et puis une musique qui déménage, Nina et le fils de pour qui j'écris régulièrement.
C'est dans cette dynamique-là.
C'est dans cette dynamique, ouais.
Et Vima Lapons, il faut le signaler, c'est une actrice formidable, elle joue notamment dans La Loi de la Jungle, et c'est aussi une circassienne complètement aboutie.
Oui, complètement aboutie, et son disque est à écouter, ça s'appelle Victoire Chose, et c'est sorti sur le label Teenage Ménopause.
Le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Je ne sais pas ce qu'ils ont mis dans l'air. Il y a un changement dans l'atmosphère, un truc qui vient trois fois rien. Ils ont détraqué quelque chose. Ils ont dû forcer sur la dose. Je m'entends chanter, je me vois danser. Je me sens bien, tu te sens bien, c'est inquiétant. Qu'est-ce qui nous prend? Je me sens bien.
Je me sens bien, une chanson que vous avez écrite pour Morane,
avec Thierry Louzin, on s'y est mis à deux.
Morane.
Oui, mais voilà, je pense vraiment fort à elle.
Bah, nous aussi, en choisissant la chanson, on savait
C'est vrai que c'est joli, cette chanson, parce qu'on se dit qu'elle est quelque part avec nous. Et à chaque fois que je parle de chanson, j'ai envie de l'entendre.
Et vous continuez à écrire donc pour les autres, mais avec les confidences, cette fois-ci, vous écrivez à partir des autres avec un petit côté sophical. Il y a un dispositif, vous ou votre alter ego avez posé des affichettes dans une petite ville de province avec une annonce qui disait que du 28 septembre au 16 novembre, une romancière recueillerait confidences, confessions et autres secrets. Les rendez-vous sont pris, des hommes, des femmes viennent vous voir dans un appartement vide, il y a deux chaises, une table, un philodendron et vous, les yeux bandés, ou disons la romancière, les yeux bandés. C'était un scénario presque sexuel.
Oui, c'est vrai que tout le monde me parle beaucoup des yeux bandés. Et d'ailleurs, ce mot-là n'est pas anodin,
bien
je
sûr.
Crois. Et alors, j'ai précisé que c'était un bandeau blanc. Ça m'a paru important qu'il soit blanc plutôt que noir. Peut-être pour le blanc de la page, peut-être pour le désérotiser un petit peu.
Mais ça n'a pas marché.
Tout le monde me parle de ça comme si c'était vraiment le truc le plus érotique du monde. Mais c'est vrai qu'il y a tout d'un coup, il y a quelqu'un qui écoute, qui est là pour vous, qui se montre, hein, qui est complètement vulnérable. Et quelqu'un d'autre qui arrive, qui rentre dans l'appartement, qui s'assied, qui va raconter quelque chose de très intime. Donc il est très vulnérable aussi. Alors très intime et pas du tout forcément érotique. Il y a très peu de confidences érotiques.
Quelques-unes, mais pas vraiment.
Voilà. C'est plutôt des choses, des phrases qui ont marqué, des événements qui vous ont bouleversé, mais qui ne sont pas non plus des grands événements. Donc on est là dans une situation très fragile. Et ce bandeau fait partie de la fragilité. Puis j'avais cette idée que c'est comme si toutes les confidences, tous les gens que la romancière ne voyait pas s'imprimaient sur ce bandeau, comme ça.
Comme du texte.
Toutes les images, oui, voilà.
Mais dans la réalité, parce que tout à l'heure, Lisa Zoilo se posait la question, mais on était hors micro, dans la réalité, vous ne preniez pas de notes non plus, vous n'étiez pas les yeux bandés, mais vous ne preniez pas de notes, vous n'enregistriez pas.
Ça a pris, il y a eu plusieurs phases, il y a eu plusieurs prises de confidence. J'ai pas envie forcément de donner toutes, mais l'idée était quand même finalement de travailler de mémoire. Je trouve que c'est plus intéressant de savoir ce qu'on a retenu. Il n'y a aucune idée de fidélité. Voilà.
À ce qui a pu être raconté, ça, on le sait bien, parce que c'est un roman sous forme de nouvelles. Lisa Zoilos, vous disiez aussi tout à l'heure, hors micro, avoir eu une idée de boutique. C'était en lien avec ça, c'était quoi?
À un moment, je me disais, mais en fait, les gens, ils ont besoin. Il devrait y avoir une boutique où on pourrait dire qui on voudrait tuer et comment. Parce qu'on a beaucoup de violence en soi. Et par exemple, un mec, il dirait, moi, je veux tuer ma belle-mère, je lui mettrai la tête dans le four avec ses poivrons. et puis je mettrais le truc et elle exploserait. Et alors ce serait super, et il irait au bout de son délire. Et puis il paierait 10 balles ou 20 balles comme chez un psy, puis il repartirait. Il aurait l'impression que ça s'est passé, il l'aurait dit à quelqu'un. Et puis finalement toute cette violence-là qu'il avait contre sa belle-mère, eh ben il ne l'aurait plus. Voilà, je me disais, il faudrait des boutiques de violence, mais juste pour parler, pour raconter ce qu'on, les petits crimes qu'on aurait aimé faire. Et puis, voilà, on paye à la minute ou je sais pas quoi. Et puis, on repart un peu, voilà.
Vous êtes vraiment une femme d'affaires, je ne sais pas si...
Oui, alors j'aime bien le côté payant parce que je me dis, ça doit soulager aussi quelque part, quoi.
C'est le principe
comme
même.
Chez le psy.
Comme chez le psy. Les habitants vont vous confier ou vont confier à cette romancière leurs secrets de toutes sortes. Une trahison de collégienne, un type qui vole des bas pour sa copine. Il les appelle des stand-up. Ça, c'est vraiment génial. Et il revient un peu plus tard.
Le retour du stand-up.
Aussi, une écrivaine qui prétend vous avoir déjà rencontré dans un salon du livre et que vous allez chercher à retrouver pour une histoire de livre assigné à deux. Vous nous racontez juste cette histoire-là.
Oui, elle... Je me souviens plus ce que j'ai raconté dans le livre, en fait, parce que j'ai dû beaucoup cacher pour pas qu'on la reconnaisse.
Ah oui, donc ça, c'était pour la...
Voilà, et donc, ça, c'est vrai, donc. Qu'est-ce que j'ai raconté dans le livre?
Mais qu'elle avait voulu signer. Mais ce livre a été vraiment écrit par les autres, Marine Lignier.
Non, justement.
Elle parce raconte que qu'elle elle vous elle oui. confiait un livre qu'elle voudrait signer à deux et non pas sous son propre nom.
Oui, alors là, c'est, en fait, c'est ça. C'est, voilà. C'est un livre qu'elle ne peut pas publier pour X et X raisons et qui sont développées dans le livre. Et donc, elle me dit, mais si vous voulez, je vous donne ce texte et puis vous en faites ce que vous voulez. Et en fait, j'ai mis une petite note en disant, est-ce que c'est une vraie, parce que je ne sais pas qui est cette personne, hein, qui est cette romancière. Et donc, peut-être un jour, je vais recevoir un coup de fil en disant, voilà, à quelle adresse est-ce que je peux vous envoyer mon roman?
Alors, bien sûr, quand les gens vous racontent des histoires toute la journée, la romancière, au bout d'un moment, ces histoires vont transpirer. Voici ce que vous écrivez. Je m'en veux, j'ai du mal à me rendormir, je sens dans ma bouche la consistance molle de la cervelle, parce que quelqu'un vous a parlé de cervelle dans la journée, la terre des poireaux, les fibres du beefsteak. Faut-il vraiment que j'avale toutes ces choses qu'on me raconte? Et non seulement que je les avale, mais que je les rumine pendant la nuit. Ça commence à faire beaucoup. Le ver de terre sur le grillage, les doigts dans le cul de la poule, les cicatrices frottées à la brosse à dents, la pointe du compas enfoncée dans la cuisse, ça c'est la première nouvelle, les morceaux de corps dans des sacs en plastique, et maintenant la cervelle, l'écrivain tient de la vache. C'est la définition la plus surréaliste que j'ai jamais lue.
Ça c'est mon côté normande. Vous savez, j'habite en Normandie.
Je sais. Hein,
enfin, voilà, donc les vaches sont mes voisines. Et mes voisines de cœur aussi, j'aime beaucoup les vaches.
Donc il y a une sorte de projection.
Ouais, écoutez, c'est cette espèce de métamorphose qu'elles font toute la journée. Elles prennent du verre, hein, de l'herbe verte, elles la mâchent, elles la régurgitent, elles la remâchent et la remâchent, et elles en font du lait, ce qui est quand même symboliquement la chose l'aliment le plus noble et le plus beau. Donc moi, j'ai l'impression de faire la même chose avec mes confidences. J'écoute, je remâche, et je fais un livre. Voilà.
Mais moi, j'adore parce que, bon, moi, j'ai été élevée dans la Sarthe. Donc c'était frontalier avec la Normandie et je me souviens d'ailleurs les ceux de la Sarthe aimaient pas les Normands et vice versa. J'avais déjà à l'époque pas compris pourquoi il y avait la guerre là, mais bon. Et du coup mes seules copines c'était des vaches aussi puisque il y a beaucoup de vaches et j'ai un amour passionné pour les vaches puisque j'étais et en Suisse et dans la Sarthe où il y a beaucoup de vaches. Et moi j'ai eu la même chose avec les vaches quand je venais d'avoir mon deuxième enfant, je crois. Je traversais la France j'étais dans le train et puis j'allaitais puisque le bébé était tout petit. Et puis on passe comme ça devant les vaches et puis je vois un veau qui est en train de téter la vache. Et moi, mon enfant était en train de me téter. Et je me suis dit, mais il n'y a pas de différence. Mais je l'ai senti tellement puissamment que j'ai un amour aussi pour... parce que on donne comme ça sans... Les vaches, elles font autre chose même pendant qu'elles se font téter et tout. Enfin, je veux dire, mais elles donnent, ça coule. Et j'avais trouvé ça tellement merveilleux. Voilà,
ouais, c'est un animal pacifique.
Ça aurait pu être une confidence, hein, véritablement, ce que vous venez de
c'est
raconter.
C'est beau, hein.
Ouais, ça va
absolument sa place dans le deuxième tome.
Et un jour, j'ai même entendu qu'il y a des serpents l'été qui viennent
téter les vaches.
Téter les vaches, ouais. Et ça, j'avais trouvé cette image-là.
Troisième tome pour
magnifique.
Les confidences.
Non, ça rentrera dans le bestiaire.
Moi, j'ai écrit une chanson, Le cœur des vaches.
Le cœur des vaches.
Ouais, qui est. vous voulez lancer un, j'ai l'impression que vous voulez lancer de la musique, là. Je vous sens impatient. Vous en avez marre qu'on parle des mâles.
Non, pas du tout. Parce que je voulais qu'on parle d'autre chose qui est vraiment le sous-texte. C'est-à-dire, c'est un roman, donc c'est bâti pour arriver à quelque chose qui est de l'ordre du secret et qui est lié à votre père. C'est donc un livre sûr et avec la parole des autres. Mais ça va devenir très personnel quand vous allez convoquer la figure de votre père. Alors, votre père, dans la réalité, c'est Roger Nimier, écrivain, mort dans un accident de voiture à 36 ans. Qu'est-ce qui le lie à ce secret ?
Alors, l'histoire, c'est... Vous savez, les petites annonces qu'on met dans la rue comme ça, en général, c'est parce qu'on a perdu un chat, un chien. Parce qu'on a perdu des clés, parce qu'on a perdu. Et tout d'un coup, ça m'est revenu. Enfin, je n'avais pas du tout envie de parler de ça dans ce livre. Hein. Ce n'était pas du tout l'idée. Mais ça m'est revenu comme une évidence que s'asseoir dans un appartement vide, que ce soit de la fiction ou de la réalité, s'asseoir dans un appartement vide...
C'est qu'on attend quelqu'un.
Mais c'est qu'on attend quelqu'un qui ne viendra pas. Enfin, voilà, c'était vraiment ça. Quand j'imaginais cette fille avec son immense philodendron, etc., il y a quelque chose de cette attente qui ne sera jamais interrompue. Et puis, tout d'un coup, venait résonner plein de confidences qu'on avait pu lui faire ou me faire. Confidence d'une petite fille dans une voiture qui fait coucou par le trois ouvrant comme la reine d'Angleterre. Une confidence de quelqu'un qui a entendu quand il était petit. Alors, tes tournants, tu les prends au frein ou à l'accélérateur? Et puis, c'est resté comme ça dans sa tête. Et il vient me raconter ça. Il me dit, chaque fois que je dois prendre une décision, je dis au frein ou à l'accélérateur. Et comme ça, il y a plein de nouvelles, plus ou moins profondes ou superficielles, qui sont venus se plaquer sur cette histoire de père qui pourrait revenir raconter quelque chose, raconter un secret.
Et vous appelez la reine du silence ?
Il m'a appelé, mais je l'ai vu sur une carte postale parce que j'ai aucun souvenir de lui. Oui. Donc oui, j'ai reçu une carte postale. Que dit la reine du silence ?
Le roman pour lequel vous avez eu le prix Médicis en 2004. Une dernière confidence, c'était comment de défiler pour Karl Lagerfeld, Marie Nimier ?
Mais j'ai pas défilé, j'ai posé.
C'était comment de poser pour Karl Lagerfeld ?
Parce que c'était surtout bien de le rencontrer, parce que c'était quelqu'un d'assez... et qui m'a complètement séduite, alors je pensais que ça allait être une figure, une espèce de poupée ressemblant à un archétype ou à quelque chose de...
Une marionnette.
Et j'ai rencontré un homme charmant. Et après, posé pour lui, vous avez tous ces assistants qui font les réglages. Et lui, il fait clic-clac-clic-clac. On n'entend pas clic-clac parce que c'est moderne. Et c'est fait. Et après, il y a toute une bande devant un ordi qui retouche la photo. Donc, comme vous aviez déjà eu 3 heures de maquillage avant, en plus du maquillage, on vous efface le maquillage à l'ordinateur. Et vous ne ressemblez plus du tout à l'arrivée.
Marie Nimier, Les Confidences, chez Gallimard. Merci à vous deux. Merci Lisa Zoyos.
Merci beaucoup.
Mon bébé, ça sort demain en salle. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci. The sky's more gray than blue.
Pass the Hours, signé Mormor sur France Inter, en concert à la Boule Noire à Paris le 25 mars. Programmation pour passer le temps de Jean-Baptiste Audibert. Et le NRV, première partie, c'est fini. On va se retrouver dans 15 minutes. Ce sera après le journal et on va se retrouver avec ça.
Il y a un déni total de cette réalité-là. Du coup, il ne faut pas voir les victimes. Or, moi, je le dis, j'ai été agressée sexuellement. Voilà.
Enfant abusé, enfance volée, le rendez-vous est pris. Alors, à tout de suite.